l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est le docteur Yitzhak Dahan de l'université Bar-Ilan en Israël, à Ramat Gan précisément. Alors vous étiez à Strasbourg pour la présentation d'une conférence sur l'exode des Juifs marocains en Occident, suite à votre thèse, à votre livre que vous avez publié. Docteur Yitzhak Dahan, bonjour.
Bonjour.
Alors les Juifs marocains ont migré massivement vers Israël dès 1948, dès la création de l'État. Vous parlez d'exode vers l'Occident. Pouvez-vous nous préciser qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce mouvement d'exode et pourquoi vous avez étudié justement ces Juifs qui ne sont pas allés vers Israël? Alors, ils étaient très nombreux à l'époque qui ont fui le Maroc pour aller vers Israël. Mais il y a aussi les Juifs qui sont allés soit au Canada et en France beaucoup.
Exactement, ce qui m'a intéressé finalement, et il faut dire avant que les grandes études qui ont été faites en Israël, ils ont été faites sur les Juifs qui ont fait la Aliya, plutôt de 1956, ça veut dire l'indépendance du Maroc vers Israël, les fameux 250 000 Juifs qu'ils ont quitté le Maroc pour aller en Israël, une grande majorité de la classe, des petites villes, et aussi, on peut dire, aussi des grandes villes, mais les grandes villes et les personnes qui étaient franchisées, ou ce qu'on appelle de l'Ouest, qui avaient ou la nationalité française, ou qu'ils ont étudié dans des écoles de l'Alliance, leur décision, elle est plutôt vers l'Occident que vers Israël.
Oui, parce qu'au Maroc, il y avait une forte, on va dire, communauté juive qui était francophone et qui était, on va dire, très, très en lien avec la culture française en général. D'ailleurs, c'était assez mal vu au Maroc, mais c'était le cas.
Il faut dire que c'est oui et non. Oui, oui, parce qu'il y avait une grande partie des Juifs marocains, des jeunes marocains qui ont étudié dans l'Alliance, mais aussi il y avait aussi ceux qui ont étudié dans des écoles talmudiques, des yeshivot, au Tzara Torah, des écoles qui étaient beaucoup plus vers la tradition, vers les études de la Torah. Beaucoup moins d'ailleurs que l'Algérie. C'est pour ça qu'il faut dire que 90% des Juifs d'Algérie, ils sont venus repatriés ici en France, et 70% des Juifs du Maroc, ils ont fait Aliya en Israël. Les Algériens avaient la nationalité française, la majorité des Marocains, non.
Aujourd'hui, au Maroc, il reste quoi de traces de la vie juive? Il y a encore des petites communautés juives, il y a encore quelques, on va dire, groupuscules, très très peu, mais il y a encore des traces de cette ancienne, le patrimoine juif au Maroc. On doit retrouver forcément des synagogues.
Il faut dire qu'il ne reste pas beaucoup.
Pas beaucoup.
1500 juifs, la grande majorité, ils habitent à Casablanca, à la grande ville, mais il ne reste pas grand-chose. Il faut dire qu'il y a beaucoup plus de touristes israéliens marocains que des juifs qui habitent au Maroc. Ça, c'est vrai. Il y a 50 000 israéliens qui viennent chaque année visiter le Maroc. Et ça, c'est... Oui, mais au point de vue juif, il y a le rabbin Pinto à Casablanca. Mais c'est plutôt un patrimoine que... Et quelque chose qui est journalier, la vie actuelle aujourd'hui, tout est un transfert vers Israël, ou peut-être vers la France, ou vers le Canada, mais pas au Maroc. Mais il y a un retour.
Il y a un retour.
Il y a un retour, retour. Il y a un retour, ça veut dire de visite. Il y a
du tourisme.
De la nostalgie. Et ça, c'est très différent des autres pays musulmans. On ne voit pas cette longueur, quand on veut aller visiter le Maroc, on veut voir le Maroc. Et aussi, il faut dire aussi les relations exceptionnelles entre le royaume marocain et la communauté juive en diaspora. Si vous demandez un ambassadeur marocain en France ou ailleurs, il vous dit, les Juifs, c'est nos ambassadeurs à New York, à Los Angeles et à Montréal. Et c'est tout, voilà. Et ce sont les ambassadeurs. D'ailleurs, il y a beaucoup de relations économiques entre des Juifs originaires du Maroc et le royaume marocain. Par exemple, Liliane Shalom. Et par exemple, Chitrit à New York, qui est au 42 à Manhattan, et qui fait le business avec les Arabes marocains.
Alors vous, Yitzhak Dahan, vous êtes d'origine marocaine. Vous parliez de l'illustration de votre livre qui est La maison de vos grands-parents au Maroc. C'est ça qui vous a motivé, vous, à vous plonger dans l'histoire de cet exode ?
Oui, mais ce que je veux dire, vous savez, dans les années 80, j'étais délégué de l'agent juif en France. Et j'étais à Paris, à Nice, à Marseille, et partout j'ai vu qu'il y avait des médecins, des docteurs, des professions libérales, des personnes qui sont originaires du Maroc. Je pensais, qu'est-ce qui se passe ? En Israël, on ne voit pas tellement. En Israël, il y a 250 000 juifs marocains, mais on ne voit pas tellement de médecins ou d'avocats. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la différence entre ceux qui ont préféré d'aller vivre à l'Occident et ceux qui ont fait la Aliyah en Israël ?
Et alors, c'est quoi cette différence ? En quelques mots, bien sûr.
En un mot, je peux dire que d'habiter à Paris, tu as beaucoup plus de possibilités de faire tes études et de te développer personnellement que d'habiter à Yerucham ou à Sderot. Il y a une grande différence. Et si vous voulez, je peux dire que Serge Arouche, qui a reçu son prix Nobel en 2012, il m'a dit, Tzrak, il était chez nous à l'université de Bar-Ilan, il est venu pour donner une conférence. Il m'a dit, Tzrak, tu veux, viens, on va discuter un peu après ma conférence. J'ai rien compris parce que c'est de la physique, c'est pas la sociologie. J'ai dit, ok. On est parti, on a commencé à discuter. Je lui ai dit, Serge, dis-moi ton histoire. Il m'a dit, Tzrak, tu sais que dans les années 1955-56, je suis arrivé à Sderot. Sderot, c'est une ville de voie de développement. Et vous savez, en 55-56, c'est le bout du monde, le désert. Il m'a dit, on était en 55-56 là-bas. Je dis, et qu'est-ce que vous avez décidé de... Non, en 56, mon père a décidé qu'il faut aller à Paris. Et voilà, Paris, Pasteur, Polytechnique, etc., etc. Et je suis prix Nobel. J'ai dit, viens, on va voir. Qu'est-ce qui va se passer si tu es resté à Sderot ? Il se met en colère. Yitzhak, toi tu es le sociologue, moi je suis physicien, je ne sais pas, dis-moi toi ! Je lui ai dit, je vais te dire. Peut-être aujourd'hui, tu avais trois kiosques. Un au sud de Sderot, un au centre de Sderot et un au nord de Sderot. Il m'a dit, waouh ! Je lui ai dit, allons. Mais peut-être si tu as fait des études secondaires et un an d'études à l'université, tu étais le directeur du département social à la mairie de Sderot. C'est tout ? Je dis, c'est tout. ça dit, vous voyez,
oui, oui.
Ça, vous m'avez posé la question, je vous dis, il y a une grande différence d'être à l'âge de 15 ou 16 ou 17 ans à Paris, ou plutôt à Sderot. Et il faut dire aussi qu'aujourd'hui, les choses...
Les infrastructures pour recevoir des
étudiants. Il y a un grand changement aujourd'hui. On parle maintenant des années 50-60, on ne parle pas des 2022.
On va parler également de votre lien avec Strasbourg, ou tout du moins le lien de la communauté juive ici, entretenu avec le royaume du Maroc. Cette diaspora qui a fait son exode pour ici, Strasbourg. C'est pour cette raison que vous êtes venu faire votre conférence ici précisément ?
Premièrement, Strasbourg m'a attiré parce que il y a une grande, et Strasbourg c'est pas la France au point de vue de la communauté juive. Il y a, elle est vivante et elle est traditionnaliste. Il y a une forme de ghetto dans cette ville et en ce qui concerne la communauté. Et aussi, si vous voulez, les bonnes relations qu'il y a entre les séfarades et les ashkénazes. Et ça m'a intéressé beaucoup. Je vais vous dire aussi que mon livre, il est basé sur une étude que j'ai faite à Aix-les-Bains. J'ai passé 3 semaines à Aix-les-Bains. Pour mieux comprendre, j'appelle Aix-les-Bains la communauté lithéenne marocaine dans les Alpes, plus ou moins. Et ça m'a intéressé beaucoup. Et je sais aussi qu'il y avait beaucoup de relations entre Strasbourg et Aix-les-Bains. Les rabbins de Strasbourg, ils sont partis vers Aix-les-Bains, ils étaient les rabbinim sur place, les personnes qu'ils ont construit ce phénomène qui s'appelle Aix-les-Bains. 5000 jeunes marocains ont étudié à Aix-les-Bains, filles et garçons. Et il faut dire aussi que dans les années 70-80, l'éducation juive et le rabbinat étaient, à mon avis, à moitié de ceux qui ont fait des études à Aix-les-Bains. Ça veut dire Aix-les-Bains était un réservoir extraordinaire en ce qui concerne la vie juive, l'éducation. Aujourd'hui, ça a changé. Bon, ça a changé, bien. C'est la deuxième, troisième génération, c'est pas la même chose. Mais il faut dire qu'Aix-les-Bains avait un rôle. Et ça m'a intéressé, ces liens entre Strasbourg
et Aix-les-Bains. On vous parlait d'Ashkenaz et de Séfarad. Ça va être ma dernière question, parce qu'on a peu de temps, malheureusement. Les gens qui auront assisté à votre conférence en auront appris beaucoup plus, bien évidemment. Quand les séfarades sont arrivés ici à Strasbourg, en France, en Occident en général, cet exode, il y a également eu, on va dire, un accueil. Il y a dû y avoir un mélange de populations avec les Ashkénazes. Ça aussi, c'est quelque chose que vous abordez dans votre livre.
Oui, oui. Et
ça n'a pas été d'une grande évidence au départ, ça a été compliqué.
Oui, et en 2-3 mots, je peux dire que la tension entre séfarades et ashkénazes en Israël était difficile, et différemment de ce qui s'est passé en Occident. Au Canada, on peut trouver ce phénomène de ce qui s'est passé en Israël, mais là-bas, le phénomène n'était pas exactement sur le facteur ethnique. C'était plutôt linguistique, oui. Point de vue de la langue. Les Ashkénazes parlaient l'anglais et les Marocains qui sont arrivés parlaient français. Ça veut dire que les Marocains avaient beaucoup plus de relations avec les non-juifs qu'avec les juifs. Ça, c'est un autre point. Mais je pense qu'en Israël, c'était beaucoup, beaucoup plus difficile. Ces relations entre les deux groupes, Ashkénazes et Séfarades, je pense que les Ashkénazes en Israël ne connaissaient pas assez les séfarades. Je peux dire maintenant, j'ai parlé de la yeshiva de Aix-les-Bains. Le rabbin Chaïkin et d'autres rabbins, ils allaient souvent au Maroc. Ils connaissaient la vie du Maroc. Ils connaissaient quels sont les Marocains. C'est pas ça. Les Marocains aussi ont financé une partie des dépenses de la yeshiva elle-même. Je pense ça, c'est un des facteurs qui explique qu'est-ce qui s'est passé en Israël entre Séfarades et Ashkénazes. À mon avis aussi, en Israël, il y avait les pays arabes qui nous entouraient. Oui. Et ils ont vu les juifs marocains, pour eux plutôt, et qui viennent aussi des pays arabes. ça a créé une tension entre, si vous voulez, la société majoritaire et les minorités qui sont venues des pays de l'islam.
Yitzhak Daran de l'université Bar-Ilan en Israël. Donc, je le rappelle, vous êtes docteur en sociologie. Vous êtes venu à Strasbourg pour animer une conférence et présenter votre livre « Du Maghreb à l'Ouest, juif marocain entre trois continents ». Merci à vous d'être passé nous voir.
Merci aussi à vous.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.